Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Il y a un an et demi, la pandémie de Covid-19 a entraîné une révolution dans le monde du travail. Un exemple pour bien s'en rendre compte, avant la crise, seulement 8% des salariés français pratiquaient ponctuellement le télétravail. Eh bien, à l'occasion du premier confinement, au printemps 2020, ils étaient 45% à y recourir très fortement. Et comme dans d'autres domaines, eh bien, on a annoncé que plus rien ne serait jamais comme avant. Aujourd'hui, qu'en est-il? Certes, le Covid-19 est toujours là, mais l'urgence est passée, les confinements ont pris fin. Et est-ce que la transformation du monde du travail a bien été ancrée comme annoncée? Qui sont les grands gagnants? Voilà notre débat ce soir. Soyez les bienvenus.
RFI.
Et pour répondre à nos questions dans ce débat du jour, j'accueille à mes côtés en studio Caroline Diard. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant-chercheur en management des ressources humaines et droit à l'École supérieure de commerce Amiens-Picardie. Face à vous en studio, Marc Malenfer. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable de la veille et de la prospective à l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et je précise que ça va être intéressant, c'est complètement notre débat. Le 14 décembre prochain, l'INRS diffusera en ligne une émission consacrée à l'évolution des organisations du travail et aux enjeux de société et sécurité au travail dans les 5 prochaines années. Donc clairement, on est dans la prospective post-Covid. Notre troisième invité, on espère qu'il va nous rejoindre, François Dupuis, que l'on attend en ligne. Merci d'avoir accepté l'invitation de RFI ce soir. D'abord, je vais commencer par quelque chose qui est assez frais. Il y a quelques semaines, au début du mois, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a affirmé qu'un recours plus contraignant au télétravail n'était pas d'actualité. Je me tourne vers vous, Caroline Diard. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de phrase? Est-ce que c'est positif? Ou est-ce qu'il faudrait davantage ancrer ce télétravail?
Alors, c'est une phrase positive dans la mesure où ça sonne la fin d'une période de crise sanitaire et d'organisation avec un télétravail qui était un télétravail dégradé en période de confinement. Mais ça ne sonne pas pour autant la fin d'une situation de télétravail dans les organisations. En effet, le confinement nous a appris à travailler différemment, à distance, à manager à distance, à évoluer vers une mutation de l'organisation du travail. Le travail ne sera plus jamais comme avant. Et cette citation de notre ministre du Travail ne dit pas que le télétravail va s'arrêter. Bien au contraire, beaucoup d'entreprises sont en train de négocier des accords au niveau local au sein des entreprises et emboîtent le pas à la démarche nationale des partenaires sociaux qui se sont mis d'accord en novembre 2020 avec un accord national interprofessionnel qui définit des règles pour le télétravail.
C'est ça qui vous fait dire que le travail ne sera plus comme avant? C'est en raison de cet accord-là concernant précisément le télétravail?
Non, pas du tout. C'est en raison de la situation de crise que l'on a traversée. Des managers qui n'avaient pas été formés, qui n'avaient pas été informés, tout comme des collaborateurs, ont été plongés du jour au lendemain dans une situation subie. Ils ont dû apprendre à travailler à distance et ils ont donc développé des aptitudes, des compétences qu'ils n'avaient pas avant. Ils se sont rendus compte des côtés positifs, des côtés négatifs. On a vu apparaître des risques émergents, notamment les risques psychosociaux et également des risques sur gestion de la sécurité, des données, etc. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que ça ne sera plus jamais comme avant, parce que la période de confinement a été une période d'apprentissage pour les organisations et j'ai tendance à dire d'amélioration continue.
Alors les risques justement, vous connaissez bien Marc Malenfer, hein, vous travaillez sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Qu'en est-il les risques psychosociaux évoqués, Caroline Diard? Justement, qu'est-ce que le Covid-19 a mis en lumière sur ce point-là?
Alors sur l'aspect télétravail, il y a des questions autour de l'isolement du salarié par rapport à son équipe. Donc il faut quand même distinguer ce qui s'est passé pendant le premier confinement, qui était du télétravail, on va dire dégradé. En plus, avec les écoles fermées, ça a compliqué beaucoup la situation. Des formes de télétravail qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui dans les entreprises et qui sont assujetties à des accords d'entreprise qui cadrent un petit peu les choses.
Aujourd'hui, on estime que c'est un quart des salariés qui pratiquent le télétravail au moins une fois par semaine. C'est ce qu'indiquent les chiffres.
À peu près un quart, sachant que ce télétravail, qui se développe massivement, il induit des situations très hétérogènes. On peut même parler d'inégalité. D'une part, évidemment, entre ceux qui sont éligibles entre télétravail et les travailleurs qui ne peuvent pas télétravailler, parfois dans la même entreprise.
Ça dépend du secteur d'activité, du métier concerné.
Évidemment du métier, c'est-à-dire qu'on estime qu'en gros, dans les économies occidentales, on a 37% des métiers qui sont télétravaillables. Ça veut dire que les deux tiers des métiers ne le sont pas. Donc, il faut toujours garder ça à l'esprit. Et puis, d'autre part, dès qu'on parle de télétravail, on signe des accords au niveau national, on a des incitations réglementaires avec une ordonnance de 2017, etc. Après, on va signer un accord au niveau de l'entreprise. Mais ensuite, on se rend compte que les situations, à chaque fois, elles deviennent de plus en plus individualisées. Mmh. Et là, au niveau des équipes, c'est aux managers de proximité de gérer ces situations, et c'est parfois compliqué.
Caroline Diard évoquait un cadre, mais cependant, c'est à la liberté finalement de chaque entreprise. Il n'y a rien qui est imposé en fait finalement en termes de télétravail aujourd'hui en France.
En matière d'accord d'entreprise sur le télétravail, c'est l'accord d'entreprise qui va primer sur l'accord national interprofessionnel. Donc, la législation permet en fait aux entreprises de s'organiser. En fonction de leurs besoins. Ce que disait monsieur, certains métiers sont plus éligibles que d'autres et les problématiques sont différentes d'une organisation à une autre. Et la hiérarchie des normes nous permet en fait de signer un accord d'entreprise qui va être plus favorable qu'un accord national interprofessionnel qui donne quand même un cadre normatif.
Et est-ce qu'il y a des freins de la part des entreprises concernant des métiers où l'on pourrait télétravailler, des freins d'ordre psychologique, culturel, qui perdurent ? Alors, qu'on sait que c'était quand même extrêmement minoritaire, je le disais, hein, c'était quelques pourcents, 8% seulement des salariés français qui télétravaillaient ponctuellement avant le Covid.
Alors, en effet, on avait énormément de freins avant la pandémie. Certains collaborateurs étaient tout à fait hostiles à un travail à domicile et de même, leurs managers étaient un peu effrayés à l'idée de déléguer, de laisser autonome et de faire confiance, puisque la relation managériale en situation de télétravail, elle repose vraiment sur délégation, autonomie, confiance et éventuellement contrôle ou absence de contrôle. Et avant la pandémie, effectivement, on avait un peu du mal à lâcher prise. Comme on a été contraint avec le premier confinement, comme disait monsieur, effectivement, les salariés ont appris à travailler à domicile et les managers ont appris à lâcher prise.
On a progressé sur ces points-là ?
Exactement, ça a été une période de progression réglementaire, ça c'est un point, mais également psychologique et culturelle.
Et ça s'est traduit comment, cette évolution psychologique et culturelle, Marc Malenfer ?
Je confirme que la grosse évolution durant la crise, ça a été de désinhiber les entreprises sur cette question du télétravail, où effectivement, quand on compare la France à d'autres pays européens, on était parmi ceux qui télétravaillaient le moins. Donc là, il y a eu un déblocage. Déblocage qui vient confirmer des travaux qui avaient été produits par des économistes il y a déjà plusieurs années, qui montrent que les métiers les plus facilement délocalisables sont des métiers de col blanc, en fait.
Et, donc de cadre, on va dire.
De cadre ou d'employés du secteur des services.
Et d'ailleurs, jusque-là, c'était majoritairement les cadres qui télétravaillaient avant la crise.
Oui.
C'était 85%, c'était des cadres qui étaient concernés par le télétravail.
Tout à fait. Et alors, le télétravail introduit aussi une forme d'inégalité entre justement les cadres qui peuvent être parfois... Je vais prendre un exemple. Vous êtes cadre, vous êtes dans l'entreprise depuis 15 ou 20 ans, vous connaissez parfaitement les rouages de votre organisation, vous connaissez l'organigramme, les process, etc. Vous passez en télétravail... Vous vous installez un bureau parce que vous êtes confortablement logé, parce que vous avez les revenus qui vous le permettent. C'est une situation très favorable. Vous avez un problème, vous savez qui joindre dans l'entreprise, vous êtes intégré, vous avez tout à y gagner, entre guillemets. Si vous êtes nouvel embauché, si c'est votre premier emploi, que vous découvrez le monde de l'entreprise, vous avez besoin d'être encadré, d'être tutoré, d'apprendre un métier... Et souvent, vous n'avez pas les revenus qui vous permettent d'avoir le même confort pour vous installer et télétravailler. Et c'est là qu'on a vu des situations assez inégalitaires, en fait. Et ça a surpris certaines personnes qui se sont rendues compte que les jeunes n'aspiraient pas forcément à beaucoup de télétravail, qui souhaitaient apprendre le métier, découvrir le monde de l'entreprise. et qu'ils ont plutôt souffert des conditions de télétravail à leur domicile.
Et les employeurs n'ont pas mis la main à la pâte pour équiper davantage les salariés avec cette pandémie de Covid-19 ?
Si, oui. Il y a eu davantage d'équipements au niveau matériel et au niveau logiciel. Il y a eu aussi des mises en place de formations par rapport au télétravail, notamment formation sur des outils, mais aussi formation des managers.
Est-ce que justement sur la formation, c'est suffisant ? Alors là, il y a 2,5 milliards d'euros annoncés en faveur de la formation, une nouvelle filière qui avait été annoncée par Emmanuel Macron, le président, dans le cadre de France 2030. La formation en termes de télétravail, elle est aussi importante parce que Marc Malenfer parlait des inégalités justement entre les cadres et les autres employés dans une entreprise concernant ce télétravail. On a commencé aussi avec vous, Marc Malenfer, sur les inégalités entre les différents métiers éligibles ou pas au télétravail. Est-ce que la pandémie de Covid-19, Caroline Diard, a aggravé les inégalités en matière de travail?
Alors, il y a deux choses. Effectivement, il y a des inégalités par rapport aux catégories socio-professionnelles. Et vous l'avez très bien mentionné, les cadres ont été, entre guillemets, privilégiés. Cette tendance au privilège va s'inverser dans la mesure où on se rend compte que ces postes sont délocalisables, puisque ça présente une opportunité de recruter des gens partout dans le monde. Donc ça, c'est plutôt une opportunité. Mais le risque, c'est effectivement qu'on délocalise aussi des postes très qualifiés qui avaient été présentés au début comme effectivement privilégiés dans le cadre de la pandémie, du confinement et du télétravail. Alors, autre inégalité criante avec la pandémie, c'est l'inégalité de genre, donc l'inégalité homme-femme. Beaucoup de femmes ont assumé des tâches qui ont augmenté leur charge mentale, qui ont généré du stress, un épuisement professionnel qu'on appelle le burn-out, parce qu'il a fallu, encore une fois, pendant cette période où les écoles étaient fermées, il a fallu gérer les tâches domestiques, l'école à la maison et une activité professionnelle, ce qui, d'après les études récentes, montre qu'il y a eu effectivement des inégalités de genre dans les foyers.
Mais quelle situation aujourd'hui ? Parce que là, on est sur l'après, enfin pas l'après-Covid, on sait qu'on n'en est pas sorti, mais on est sur, la question n'est pas... Qu'est-ce que Covid a changé pendant la crise, en fait, concernant le travail, mais plutôt aujourd'hui, les confinements sont passés, l'urgence est passée. Qu'est-ce qui est ancré en matière de travail ? Est-ce que, justement, ces situations que vous mentionnez concernant le genre, elles se sont stabilisées aujourd'hui ? Les écoles ont rouvert,
mais le problème, c'est qu'on est maintenant sur des situations de sortie de crise avec... ce que certains psychologues ont qualifié de choc post-traumatique. Il y a des choses qui demeurent, et notamment l'épuisement n'est pas terminé, et les personnes qui sont actuellement en burn-out payent en fait des mois et des mois de télétravail et de confinement. Ce n'est pas le télétravail le responsable, hein. En réalité, c'est un télétravail, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est un télétravail dégradé.
Marc Malenfer, il y a plus de risques de burn-out avec cette généralisation du télétravail post-Covid ?
Ce qui est constaté, c'est aussi le fait que les gens, pendant cette période de crise, ont réfléchi au sens de leur travail, à l'utilité sociale de leur travail, etc. Et ont peut-être élevé leur niveau d'exigence sur ces aspects-là. Et donc ça va avoir un impact dans la durée sur la relation à l'entreprise, en fait. Entre la recherche de métiers qui ont du sens, la recherche d'emplois dans des entreprises qui sont vertueuses, par exemple sur le plan environnemental, etc., ça va devenir des critères de plus en plus importants. Et je pense que la prise de conscience a été également très forte chez les travailleurs des métiers les plus, ce qu'on a appelé les premiers de corvée, ouais, les plus exposés, qui se sont rendus compte qu'ils étaient en première ligne, que leur rémunération était particulièrement faible quand on les compare à d'autres travailleurs, et notamment à ceux qui peuvent télétravailler. Et donc, il y a une remise en question. Et là, je pense que, notamment en milieu hospitalier, en ce moment, ils prennent de plein fouet le contre-coup de la crise avec des vagues de départ inédites.
Alors, le milieu hospitalier, mais pas seulement. Il y a eu énormément de prises de conscience, et vous le mentionniez, Marc Malenfer, d'employés se disant, bon ben, au retour avec la fin du travail, télétravail, la fin des confinements, je vais changer de voie. Est-ce que ça, on a déjà des premières tendances sur
oui,
ça se concrétise ou pas, Caroline
Diard ?
Tout à fait,
ça se concrétise. Alors, il n'y a pas que des gens qui font des burn-out, il y a des gens qui, effectivement, ont pris du recul, réfléchi sur le sens du travail, sur l'aspiration à une conciliation vie privée, vie professionnelle. Donc, ça a été... ça, au moins de positif. Et on a des gens qui démissionnent, qui changent de métier, qui changent de région, qui changent de vie aussi. Et si vous interrogez des recruteurs, actuellement, on est sur un marché qui est pénurique et sur énormément de métiers. Et c'est ça qui est surprenant.
Est-ce qu'on s'appuie aussi sur le plein emploi ? On va faire écho à ce qu'a promis ou annoncé le président français hier, Emmanuel Macron, le plein emploi. Est-ce qu'il y a aussi ce climat de confiance, en tout cas annoncé par l'exécutif, qui permet cela ?
Également. Alors, c'est un élément de... C'est un facteur de contingence qui est facilitant. Hein. On ne peut pas se mentir là-dessus. Les entreprises recrutent. Il y a une activité économique qui redémarre. Donc, ça crée un appel d'air pour des postes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui ont démissionné, donc qui ont laissé des postes vacants. Et la difficulté aujourd'hui, c'est une difficulté de recruter, d'attirer les talents. Et d'ailleurs, le télétravail, c'est un argument de la marque employeur pour recruter.
Alors, difficulté de recruter, pourquoi ? Parce que justement, il y a davantage cette quête de bien-être, on l'a évoqué, pourquoi l'hôtellerie a autant de difficultés à recruter, les horaires rallongent, le travail le week-end, on sait maintenant où se trouvent les priorités familiales. Vous l'observez, ça, Marc Malenfer ?
Oui, puis ça s'observe de manière assez massive et impressionnante aux États-Unis, où ils ont des vagues de démissions et de personnes qui quittent en fait le monde du travail, c'est-à-dire qui ne recherchent plus d'emploi non plus.
Comment faut vivre ?
Qu'ils ont un phénomène qui fait débat dans la presse anglo-saxonne en ce moment et qui entraîne aussi une revalorisation salariale dans certains secteurs. Mais vous citiez l'hôtellerie-restauration, c'est un processus qui est en cours. Les partenaires sociaux sont en train de négocier pour justement essayer d'augmenter les salaires. Mais il y a, comme vous le disiez, également un problème de conditions de travail dans certains secteurs. Et je pense à la santé, mais c'est vrai dans la restauration aussi, qui font que quand une personne a le choix... Elle a eu le temps d'y réfléchir ces derniers mois et beaucoup de personnes font le choix effectivement de changer de métier, soit de changer de cadre d'exercice. C'est-à-dire je vais quitter l'hôpital pour m'installer en libéral ou changer de branche.
Dans ce cadre-là, je voudrais citer par exemple la banque en ligne Boursorama qui a mis en place un accord. Ça vous fait sourire, Caroline Diard, vous allez m'expliquer pourquoi, qui prévoit seulement, ça va dans le sens du bien-être qu'on évoque, post-Covid, 2 jours de travail par mois sur le site, et l'entreprise prend en charge à la fois les frais de transport et les nuits d'hôtel pour ces 2 journées par mois. Donc ça, concrètement, c'est des employés qui peuvent vivre à des centaines de kilomètres de leur lieu de travail, Caroline Diard.
Alors, ça me fait sourire parce que c'est un exemple assez emblématique et c'est un secteur d'activité, la banque, où historiquement, on a télétravaillé. Les premières activités à télétravailler en France, aux États-Unis et dans d'autres pays anglo-saxons, c'était effectivement banque-assurance. Les premières études portent sur ces secteurs-là. Donc, ils ont un terrain favorable, des salariés majoritairement éligibles au télétravail. Donc là, ils ont aussi, je pense, souhaité frapper fort, bénéficier de l'influence positive d'une expérience vécue collectivement pour mettre en place un accord qui est un peu extrême. Mais pourquoi pas ? Parce que, à mon avis, les métiers s'y prêtent.
Ce sont des choses qui vont peut-être se généraliser, qu'on peut voir ailleurs. Évidemment, c'est un petit comme, c'est une bourse en ligne, comme par hasard, donc voilà. Assez moderne. C'est des choses qu'on peut retrouver, multiplier, à l'enfer.
Ça pose un certain nombre de questions. C'est-à-dire, dans une organisation comme ça, comment vous faites pour intégrer les nouveaux embauchés ? Leur apprendre le métier, leur permettre de se créer un réseau interne, etc.
Parce qu'on n'a pas parlé de l'absence d'échange avec les collègues que crée le télétravail.
L'isolement.
C'est un premier problème. Deuxième problème, il y a un problème de responsabilité juridique de l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur est responsable de la santé et sécurité de ses salariés. Et si ses salariés sont à distance, c'est compliqué pour lui de veiller à leurs conditions de travail et de garantir ça. C'est pour ça qu'on peut avoir aussi la tentation chez certaines entreprises de dire, écoutez, vous travaillez à distance, vous ne venez plus que deux jours par mois au travail, vous souhaitez être autonome, pourquoi ne passerions-nous pas d'un mode de management par objectif à, en fin de compte, une prestation de service? Et à ce moment-là, vous vous mettez à votre compte, vous êtes indépendant, vous pouvez éventuellement travailler pour d'autres clients. Et moi, je ne suis plus votre employeur au sens légal, je suis votre donneur d'ordre. Et on change la relation de travail.
Mais ça, c'est des choses qu'on peut voir se généraliser. Encore une fois, je voudrais qu'on prenne un peu de hauteur, parce qu'on cite énormément d'exemples. Est-ce que ça peut amener clairement une refondation du monde du travail, une évolution vraiment radicale de nos sociétés? Caroline Diard, ça m'intéresse.
Il y a peut-être une question aussi qui est à soulever. Vous avez évoqué une quête de sens au travail, une demande sur des conditions de travail, mais il y a aussi une forte demande sur la valorisation du travail et la reconnaissance au travail. La vraie question qui se pose, c'est si on est uniquement deux jours par mois sur le site, comment on est reconnu, comment on est valorisé, comment on montre son travail. Donc il y a une problématique d'isolement qui va être, à mon avis, un peu extrême dans ce genre de situation. Comment on évalue les collaborateurs qui sont quasiment 100% à distance? Effectivement, comment on se rencontre s'il y a un problème de surcharge de travail? Donc ça nécessite de mettre en place des outils de pilotage, de reporting et de changer, effectivement, vous l'avez mentionné, l'organisation du travail pour demain.
Donc davantage de chartes, en fait, pour encadrer tout cela?
Alors, pas que des chartes, hein, des outils de pilotage et de suivi des collaborateurs. Parce qu'un collaborateur qui est à distance, il faut absolument qu'à un moment, il se déconnecte et il faut en être certain, parce que sinon la charge de travail va augmenter. Alors les études ont montré qu'effectivement la charge de travail avait tendance à augmenter à
48
domicile.
Minutes de travail en plus par jour pour les télétravailleurs, étude de la New York University et Harvard Business School.
Donc c'est pas des minutes en plus demandées par l'employeur, hein, très souvent. Il y a des injonctions, certes, qui sont implicites, mais c'est aussi le salarié qui, de lui-même, un peu dans son rôle de bon élève, va dire « je termine le dossier ». Avant de.
Bah c'est le cadre qui n'existe plus. Il n'y a pas le départ du lieu de travail.
C'est
il y a une déconnexion qui est plus difficile à faire.
On ne quitte plus le lieu de travail et il n'y a plus cette frontière qui était une frontière physique. La frontière, elle est devenue virtuelle.
Télétravail, changement de voie, on a dit. Marc Malenfer, ça va ressembler à quoi tout cela? Je vous ai dit prendre de hauteur.
Oui, alors
de
ce que je vous propose aussi, c'est de s'intéresser à d'autres métiers que ceux des télétravailleurs. C'est-à-dire que la crise a aussi accéléré les phénomènes de recours aux technologies de l'information et de la communication de manière globale, et donc les phénomènes d'automatisation. Et on voit se développer dans tout un tas de secteurs, le commerce, la logistique, etc., de plus en plus de recours à de l'automatisation. Et donc ça change aussi les conditions de travail sur le terrain. Dans les entrepôts de logistique ou dans les entrepôts, dans les usines industrielles, auparavant, les robots étaient enfermés dans des cages. Maintenant, il y a tellement d'usages de la robotique et la cobotique se développe, c'est-à-dire que maintenant, les travailleurs sont au contact de plus en plus des robots et des machines.
Et ça, de toute façon, c'est à côté de la pandémie, c'est quelque chose qui se développait.
La pandémie a contribué à accélérer ces phénomènes, notamment quand on parle de relocalisation industrielle en France, qui est un sujet à la mode, on va dire. On va avoir des phénomènes de relocalisation d'activités qui ne sont pas anodines en termes de conditions de travail et donc qui passera sans doute beaucoup par de l'automatisation. Donc là, il y a des verrous qui ont sauté en termes de développement des technologies de l'information et de la communication, mais dans tous les métiers.
Des verrous qui sautent et globalement une confiance qui s'est accrue, vous diriez, Caroline Diard, entre employeurs et salariés?
Pas certaine que la confiance se soit accrue, non, justement.
La question du télétravail, déjà, est-ce que les employeurs sont plus souples pour moins surveiller, parce qu'évidemment, ils ont moins la main.
Certains employeurs ont effectivement appris à lâcher prise, donc à faire confiance, mais la relation managériale n'a pas été bouleversée. Hein, elle a muté, elle a évolué, elle s'est transformée plutôt favorablement dans le sens de la confiance. Mais globalement, si on considère que les salariés devraient être complètement confiants dans leur entreprise, je vous réponds non. Parce que s'ils étaient confiants, ils ne démissionneraient pas. Le fait que les gens démissionnent, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des failles de la part de l'employeur. Et parfois même des déviances. Et on a vu apparaître des cas de harcèlement au travail, justement parce que des managers qui avaient la sensation de perdre un petit peu de pouvoir ont commencé à avoir des comportements qui n'étaient pas adaptés. Donc, ce qui a créé aussi, après, derrière du stress et des risques psychosociaux.
Marc Malenfer, c'est aussi un risque du télétravail, ça, parce que, évidemment, il y a la distance physique qui fait que l'employeur ne peut pas être derrière son salarié, mais virtuellement, il peut lui envoyer des mails et alors, il peut les multiplier, ces mails.
Les technologies permettent d'aller bien au-delà du mail. Hein. Il y a des outils technologiques qui permettent de surveiller concrètement l'activité de la personne devant son ordinateur, de faire des captures d'écran, de surveiller les clics de sa souris, etc. Donc, c'est vraiment une question autour de la confiance et de l'autonomie. Ce qui a été très apprécié par les salariés qui ont expérimenté le télétravail, c'est de se retrouver autonome dans la manière de s'organiser pour faire leur travail. Si vous plaquez des outils de contrôle à distance sur les modalités de télétravail, vous détruisez ça. Donc il y a une question de confiance. Et les phénomènes de sous-traitance que j'évoquais, de transformer des emplois en prestations de services, ça peut inciter aussi à mettre en place du contrôle et des procédures et à isoler quand même les travailleurs les uns des autres, ce qui est quand même un facteur aggravant en matière de risque professionnel. C'est-à-dire que la prévention, c'est un sport collectif. Il faut être ensemble entre travailleurs pour pouvoir s'exprimer sur son travail et être isolés les uns des autres dans des relations qui sont uniquement intermédiées via des outils technologiques. C'est une source de préoccupation pour les acteurs de la prévention.
Caroline Diard, est-ce que la crise a justement aggravé le télétravail, on se dit c'est la solution, mais le fait qu'il n'y ait plus, mais je le disais en fait, hein, aussi ces échanges avec les collègues, les pauses café, ce mélange entre vie professionnelle et vie privée.
Alors ça a créé un brouillage des frontières, ça a isolé les collaborateurs de leur collectif de travail, et on a vu l'importance du collectif de travail durant cette période où on était vraiment à 100% en télétravail. Donc ça, c'est important. Et pour rebondir sur les propos par rapport aux nouvelles organisations du travail, on a le salariat qui est un peu mis à mal avec des statuts qui sont des statuts d'indépendants. On a des micro-entrepreneurs qui deviennent des satellites de l'entreprise. Donc, ils travaillent effectivement à distance. Ils sont autonomes, indépendants. On leur fait confiance, mais ils n'ont pas le statut de salarié. Donc, ils n'ont pas la protection qui va avec. Et ça va poser des problèmes.
Ça va poser des problèmes, ou est-ce que ça peut être aussi une évolution du monde du travail avec peut-être, on casse un peu le modèle du salariat en France?
Alors, le modèle du salarié en France, il a été cassé il y a déjà un petit moment. Hein.
On parle
d'ubérisation, en fait, de l'économie.
Il est quand même majoritaire, je veux dire.
Le salariat reste majoritaire et le système d'ubérisation est régulièrement retoqué par les tribunaux. Donc il y a une protection en France qui fait qu'on est très attaché à notre histoire et à l'histoire du salariat, qui est une histoire récente en matière de droit social. Avant, on était sur des contrats de louage, donc on était effectivement sur des indépendants auparavant. Et là, on est sur un peu un retour en arrière, mais on a des garde-fous. Et ça, c'est le côté positif aussi de notre contexte juridique en France.
Alors, ce sera ma dernière question, Marc Malenfer. Est-ce que tout cela, cette évolution du monde du travail post-Covid, permet d'aller un peu plus dans le sens des objectifs climatiques? Est-ce que ça sert cette cause-là?
Ouh là là, très très bonne question. Non, ce que je peux dire, c'est que les transformations économiques induites par la prise en compte des transitions environnementales, c'est-à-dire quand on parle par exemple du développement de l'économie circulaire, ça change les modes de production et ça n'est pas anodin en matière de conditions de travail. Et là, la question, c'est quels sont les objectifs des décideurs au moment de mettre en place des nouvelles modalités de travail? Est-ce qu'on est uniquement sur un objectif environnemental et est-ce qu'on ne perd pas de vue la question des conditions de travail des opérateurs? Là, ça c'est très important parce que sinon, on va concevoir des nouveaux process qui seront vertueux sur le plan environnemental, mais qui pourront accroître les risques pour les opérateurs.
Ce sera à suivre, et je retiens les trois points, selon vous, qui font que le monde du travail a été profondément bouleversé par cette pandémie. Davantage, évidemment, de télétravail, des changements de voie pour les salariés qui se multiplient, et le développement de la robotisation. Merci Marc Malenfer, et merci à Caroline Diard. Merci à Florence Ponce, qui m'a aidé à préparer ce débat.
Merci.